Matin, je vois qu'il y a énormément de jeunes. Et ce message, c'est pour les jeunes. Les plus âgés, vous allez me dire, et nous, qu'est-ce qu'on fait ici? Non, les jeunes, à partir de 7 ans à 107 ans, je crois que tout le monde est jeune alors. Ce matin, on va s'arrêter dans le livre de Ecclésiaste, au chapitre 11. Au chapitre 11, et nous lirons les 9 premiers versets. Mais certaines traductions, ça va jusque 8. Et alors, pour ceux qui ont la traduction jusque 8, on lira aussi le verset 1 du chapitre 12. Alors, il est dit, « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. » Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste là à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sème point. Celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comment tu ne sais pas? Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte. Tu ne connais non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un ou l'autre sont également bons. La lumière est douce. Elle est agréable aux yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années et qu'il pense aux jours des ténèbres qui seront nombreux. Tout ce qui arrivera est vanité. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Voilà pour ce matin. Ce livre de l'Ecclésiaste, on ne sait pas qui l'a écrit, mais tous les spécialistes sont d'accord de dire que c'est le roi Salomon. En quelque sorte, il fait un résumé de sa vie, et si on peut retirer une seule phrase de son livre, il nous dit « crains Dieu et observe ses commandements ». Crains Dieu et observe ses commandements. Et dans ce verset 1 du chapitre 11, il est dit « jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras ». Ce verset, on le cite souvent pour annoncer la bonne nouvelle. Parce que le pain représente la parole de Dieu. Mais ce verset, si on le met vraiment dans son contexte, dans tout ce chapitre 11, il me semble, je peux me tromper, il me semble qu'il est plutôt d'être généreux. Pourquoi? Parce que dans le verset 2, il dit « Donne-en une part à 7, même à 8 ». Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. C'est là que nous voyons qu'il faut être généreux sur la terre. Et ça commence quand on est jeune, d'être généreux. Apprendre à être généreux, c'est être prêt à donner. Pas simplement de l'argent. Mais ton temps pour les autres. Si ce n'est pas de l'argent, ta collation, est-ce que tu la partages avec les uns les autres? Je me souviens quand j'étais plus jeune, à l'école en 5e secondaire, il y avait un copain, on avait un petit magasin, il achetait des bonbons et des chocolats, mais il ne les mangeait pas à la récré, parce qu'il savait qu'on allait lui demander soit un morceau, soit des bonbons. mais en classe. Il se mettait à l'arrière et mangeait tous ses bonbons et ses chocolats pour pas donner un morceau ou des bonbons. Quand tu jettes ton pain sur la surface des eaux, généralement, les canards vont les manger. Si ce n'est pas les canards, c'est les poissons ou les oiseaux ou autre chose. Et puis ton pain, tu le vois plus. Mais il dit, un jour tu le retrouveras. Je donne un exemple. Voilà que Paul voit Pierre dans le besoin. Et Paul va lui donner du pain à Pierre. Et voilà qu'un jour, Paul lui arrive le malheur. Et Pierre voit Paul. Qu'est-ce qu'il va faire? Pierre va lui donner du pain à Paul. Et Paul retrouve son pain. C'est facile, hein? Tout le monde sait ça. J'ai lu par rapport à ce verset, Spurgeon, que tout le monde connaît. On a vécu avec lui, non? Un grand prédicateur. Il dit, par rapport à ce verset, l'Égyptien répand sa semence sur les eaux du Nil et il se peut sembler que ce soit là jeté à la rivière. Mais bientôt les eaux baissent et le grain de riz ou de blé pénètre dans un sol fertile pour y produire peu après une riche récolte. Être généreux, c'est qu'un jour, ça produit des effets pour les uns et pour les autres. Il y a un résultat. Ce n'est pas en vain d'être généreux. Donner avec plaisir, sans rien attendre en retour, ça c'est le signe d'être généreux. C'est rendre la vie des autres un peu plus facile, un peu plus agréable. Et celui qui est généreux, c'est un homme et une femme qui est heureux ou heureuse. Sauf dans un cas. On raconte souvent que beaucoup de personnes sont généreuses. Ils donnent, ils font beaucoup de bien. Mais ces personnes sont tristes. Tristes et déçues. Pourquoi? Lorsque les gens avec qui elle avait été généreux refuser de les aider en retour. Alors ces personnes sont déçues. Et qu'est-ce qu'on fait? On se renferme en nous-mêmes et on se dit, plus jamais je donne, plus jamais j'aide les personnes. Être généreux, ce n'est pas attendre qu'on te le redonne. Mais dans ce verset, il dit, tu le retrouveras. Mais ce n'est pas forcément à ceux que tu as donné ou aidé que c'est eux qui vont te le rendre. C'est peut-être des autres personnes. C'est pourquoi quand Jésus dit, quand tu invites quelqu'un, invite des personnes qui ne savent pas te le rendre. Sinon, c'est facile d'inviter des gens qui vont te le rendre après. Mais plutôt, c'est difficile de donner qu'on sait très bien qu'ils ne vont pas nous le rendre. Ça, c'est le signe d'être généreux. Quand les nuages sont pleins de pluie, elle répand sur la terre. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie et fertile, elle participe à la bénédiction de Dieu. Est-ce que mon cœur est rempli de générosité? Si oui, elle doit tomber sur les uns et les autres. Et nous participons à la bénédiction de Dieu. Si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. J'aime bien Salomon. Il nous apprend des grandes et des grandes choses. Si un arbre tombe à midi, ou au nord, où il est tombé, il restera. Et je suis content que Nathan et Samuel sont là. C'est leur métier. Et vous pouvez, après le culte, leur demander quand ils coupent un arbre, où ils tombent, le lendemain, ils restent au même endroit. C'est juste, hein? Ah, Salomon ne se trompe pas. Quand vous vous promenez dans le bois, vous voyez un arbre longé à droite ou à gauche, ou le sud, ou le nord, qu'importe. Le lendemain, si vous vous promenez encore au même endroit, vous le retrouvez au même endroit, allongé. Si quelqu'un est avare aujourd'hui, forcément demain, tu seras encore avare. Si tu es avare quand tu es jeune, quand tu es plus âgé, tu resteras avare. Sauf dans un cas. Ce cas, c'est de se mettre devant Dieu et lui dire, Seigneur, aide-moi à ouvrir mon cœur pour les autres. C'est pourquoi on commence dès qu'on est jeune. Parce que quand on est vieux, c'est plus difficile. Dès quand tu es jeune, sois généreux. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Il n'y a pas si longtemps, à l'usine, ils ont fait des travaux à l'extérieur. Et puis, cette firme, ils ont appelé des jardiniers. Je croyais voir Nathan et Samuel, ce n'était pas eux. Et avec un collègue, on a été près de ces jardiniers. Est-ce qu'on a du temps pour parler? Quelques minutes. On lui a dit à ce jardinier, bah, il y a beaucoup de cailloux. Il fait, ben, je retire les plus gros et les plus petits, je les laisse. Et puis, il nous a montré comment ils sèment, toujours au même geste. Et puis, le soir même, il a eu une drache, mais une drache nationale. Ça a duré une semaine. Durant cette semaine-là, je passais par là, pour travailler, bien sûr. Et je voyais tous ces cailloux qui remontaient. Je dis, le gars, il a travaillé, mais le pauvre, il doit tout recommencer. Mais après 3 ou 4 semaines sont passées. Tout était vert. Je ne voyais plus de cailloux. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Ce jardinier n'a pas commencé à dire, waouh, il y a plein de cailloux. Ce jardinier, certainement, et Nathan et Samuel sont là, ils ont une application sur leur GSM de savoir quel temps il va faire durant la journée, mais aussi pour la semaine. Ils savaient très bien que le soir, il allait dracher. Et durant toute la semaine, il l'a fait quand même. Ce jardinier a pris des risques. Il a pris des risques, mais il l'a fait. Et toi, et moi, est-ce que nous prenons des risques? Est-ce que moi, je prends des risques ou je commence à regarder, waouh, il y a du vent. Ou je regarde les nuages, il va commencer à pleuvoir. Toi qui es jeune, est-ce que tu prends des risques? Peut-être tu regardes les anciens en train de prêcher et tu as envie de prêcher. Prends ce risque d'aller trouver Mehdi et lui dire, j'ai tellement envie de prêcher. Et Mehdi va te donner des formations où il va te diriger là où il faut pour apprendre à prêcher. Prends des risques. Peut-être que tu as envie de faire des études bibliques. Mais tu calcules, ouais, mais combien on gagne après? Parce que les jeunes, c'est comme ça maintenant. Ils veulent savoir le salaire avant de faire les études. Prends des risques. prends des risques. Je voudrais tellement travailler avec porte ouverte. Oh, mais c'est risqué. Hein. Prends des risques. J'ai envie de tellement travailler. Mais j'ai tout fait pour trouver du travail. Mais telle et telle porte, j'ose pas sonner. Prends des risques. Je vous dis ça, hein. C'est facile devant vous. Mais je suis comme vous. Moi, je suis carré, moi. Je ne prends pas des risques. Parce qu'un jour, j'ai pris un risque. C'est quand j'étais jeune, je jouais au football. Et je jouais derrière. Et là, j'ai pris un risque. Je voulais dribbler une personne. Je l'ai déjà peut-être raconté. Et cette personne a pris le ballon, il a marqué. Il était devant le goal. Le coach m'a dit, je ne peux pas vous le dire devant vous, ce qu'il m'a dit. Puis j'ai plus pris de risques. Mais parfois, on tombe en prenant des risques. Mais il faut être prudent, mais il faut prendre ce risque pour repartir. Prends des risques tant que tu es jeune. Tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. Tu ne connais pas les plans de Dieu pour toi. Mais il a un plan pour toi. Il a un plan pour moi. Dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un ou l'autre sont également bons. Continue ton travail, le matin jusqu'au soir, avec le risque, parce que tu ne sais pas c'est lequel qui est bon. C'est pourquoi il est bon de commencer notre journée en lui demandant à notre Dieu que je puisse faire ta volonté et non la mienne. La lumière est douce. Elle est agréable aux yeux de voir le soleil. Il y a une femme, il y a si longtemps, me disait, « Gino, dès le matin, quand le réveil sonne, la première chose que je fais, c'est plutôt je dis, « Merci Seigneur que je suis vivante. » Moi, dès le matin, quand le réveil sonne, je dis, « Seigneur, pourquoi je dois aller travailler ?» Mais la réponse, elle est là. Elle est là. Elle est agréable aux yeux de voir le soleil. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais il paraît que c'est des vitamines D. C'est pas moi qui le dis, mais c'est les médecins. Et dans ces contrées, dans ces régions, il fait chaud. Et souvent, on se mettait à l'ombre. Ou sinon, on restait au lit. À quelle heure tu te réveilles? Je ne veux pas le savoir. À quelle heure tu te réveilles? Quand la journée est terminée, le soleil est agréable. Est-ce que je suis discipliné de savoir à telle heure je me réveille, à telle heure je commence la journée? Ou sinon, Proverbe nous dit, chapitre 6, verset 9, « Paresseux, jusqu'à quand serais-tu couché? Quand tu te lèveras-tu de ton sommeil? » Un frère a dit, « Celui qui court loin de Dieu dès le matin aura du mal à le rattraper dans la journée. » La lumière est douce. Il est bon dès le matin se réveiller avec le Seigneur et partir avec le Seigneur. Si donc un homme, j'ai rajouté une femme, vit beaucoup d'années, qu'il s'est réjoui, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années et qu'il pense aux jours de ténèbres qui seront nombreux, nombreux. Un homme, une femme qui vit beaucoup d'années va connaître de bonnes choses, mais aussi de mauvaises choses. Un jour, j'étais au téléphone avec Hélène. Et Hélène m'a dit, il y a plus de pleurs que de rires dans la vie. Elle a raison. Il y a plus de pleurs que de rires dans la vie. Mais Salomon nous dit une bonne chose. Réjouis-toi pendant ces années où tu peux te réjouir. Est-ce que je me réjouis quand je suis avec ma femme, mon mari? Tu ne sais pas le malheur qui peut arriver. Alors, profite de ta femme, profite de ton mari. Est-ce que je profite avec mes enfants? Myriam prend encore Mathieu dans ses bras. Elle essaye. Parce qu'elle me dit, après je ne peux plus le faire. Profite tant qu'ils sont jeunes. Après tu ne peux plus le faire. Est-ce que je profite avec mes amis, avec ma famille? Est-ce que je profite que je suis en bonne santé? Moi, je ne savais pas que j'avais une bonne santé. Maintenant, j'ai mal partout. J'avais une bonne santé. Oh, je pouvais faire plein de choses. J'ai oublié que je pouvais faire telle et telle chose. Profite, parce qu'il y aura des jours de tristesse, de malheur, de pleurs, de souffrance, d'angoisse et de deuil. On dit souvent, on a mangé le pain blanc, maintenant on va manger le pain noir. Je me souviens quand mon papa il était encore vivant, en Sicile, ils n'avaient pas beaucoup de nourriture. Il a dû partir. Il est parti en Uruguay. Après, là-bas, il a eu aussi la famine. Il est revenu en Italie. Et les cousins lui ont dit, viens en Allemagne. Il a été en Allemagne pendant 8 ans. Et après, c'est lui-même qui est parti. Il est retourné en Sicile. Et puis, d'autres cousins ont dit, viens en Belgique. Et quand il est venu en Belgique, il a adoré ses pâtes, ses tartines blanches. Combien il me disait tellement que c'est bon cette tartine. Alors profitons aujourd'hui encore qu'on peut manger ce pain blanc, parce qu'un jour on va manger du pain noir, le malheur arrivera. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre tout ton cœur à la joie pendant tes jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. On dirait que Salomon se contredit. Réjouis-toi, après, il y a le jugement. Non, il ne se contredit pas. Quand tu es jeune, profite de la vie. Mais surtout, surtout, n'exagère pas. Quand tu bois un verre de bière, merci Seigneur que je peux le boire. Mais pourquoi boire tout le casier de bière? Tu sais très bien que ce n'est pas bon pour ta santé, mais en plus, il peut avoir des conséquences. Tu reprends la voiture ou quoi? N'exagère pas. Profite de ton verre de bière. Tu es jeune, tu es beau, tu es belle, mais profite pas, n'exagère pas de ta beauté pour faire pleurer tous les garçons, pour faire pleurer toutes les filles. Tu es jeune, tu as envie de sortir, c'est normal. Mais demande au Seigneur où je peux sortir pour pas faire des conneries. Tu es jeune, tu as envie de faire la fête, c'est normal. Mais pourquoi faire la fête toute la semaine? Il y aura un jour, il y aura un jugement. Ce jugement, c'est dans la vie où tu exagères. parce que tu ne crains pas ce Dieu qui t'aime. Alors je termine le message. Salomon a vécu toutes ces choses avant toi. Et il peut te dire aujourd'hui que la meilleure chose, c'est craindre Dieu et d'observer ses commandements. Le Seigneur est généreux. Prenons exemple de lui, d'être généreux. Le Seigneur a pris des risques pour te sauver. Est-ce que tu prends des risques pour le Seigneur? Le Seigneur a accompli les plans de Dieu, du Père. Accompli les plans de Dieu. Le Seigneur se levait très tôt le matin. Jusqu'au soir, il travaillait. Prends exemple de lui. Lève-toi tôt et travaille jusqu'au soir. Le Seigneur a connu les pleurs, le deuil, la souffrance et la mort. Sache qu'un jour tu connaîtras toutes ces choses. Le Seigneur a commencé son ministère très jeune, à 12 ans. Commence très tôt ton ministère. 1 Timothée 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse. On ne veut pas mépriser ta jeunesse. Loin de là. Mais sois un modèle. Mais sois un modèle pour l'Église, pour les fidèles. Sois un modèle pour tes copains. Sois un modèle dans la classe. Sois un modèle avec tes collègues. En parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. C'est difficile. C'est quand tu vas comprendre qu'il faut la crainte de Dieu, que tu as envie d'observer ses commandements. Benoît nous a parlé du premier commandement la semaine passée. Ici, c'est le deuxième commandement. C'est d'aimer ton prochain avec toute l'aide de notre Dieu. Que le Seigneur bénisse durant cette semaine qu'on puisse être comme notre Seigneur.